sûr.
Ça pose pas trop de soucis. Merci. Sinon, je peux le prendre comme ça, c'est bon, merci. Il existe toutes sortes de prédicateurs, mais je peux vous dire que Jésus n'était pas de ceux-là. Quand Jésus parlait, c'était du français courant, je ne sais pas, que tout le monde pouvait comprendre et recevoir 5 sur 5. Et je voudrais juste faire une petite page d'information, ce n'est pas de la publicité. Ne changez pas de chaîne, s'il vous plaît. Restez à l'antenne. J'ai écrit 4 petits livrets sur le sermon sur la montagne. Il y en a un 5e qui va sortir bientôt, et puis 2 autres encore qui vont être écrits. Une question de caractère, c'est pas colérique, mélancolique ou quoi, mais c'est les béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le royaume de Dieu. Une question de vision. Jésus dit... Les membres du royaume, ils sont lumière du monde et celle de la terre. Et la question c'est, comment est-ce que je vois la place et le rôle du chrétien sur la planète Terre? Le troisième, c'est une question d'intégrité. Les valeurs du royaume. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La barre, elle est très haute. Je dis toujours, l'enseignement est gratuit. Ce qui coûte cher, c'est la mise en pratique. Bon, le bouquin, je crois, il coûte 11,50 €, mais la mise en pratique, ça coûte, vous l'aurez compris, bien plus cher. Le dernier qui est paru, une question d'authenticité, c'est sur le Notre Père. La spiritualité du membre du royaume, elle est authentique et non pas mécanique. Voilà, merci de n'avoir pas changé de chaîne et d'être resté avec moi. Alors donc, nous allons poursuivre notre réflexion sur aimer Dieu. Jusqu'où ? Nous avons dit hier que l'amour, c'est pas seulement une question de parole, mais c'est du concret. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. Et c'est aux œuvres que l'on reconnaît le chrétien. Hier soir, donc, nous avons réfléchi sur cette thématique, aimer Dieu au point de renoncer au monde. Cet après-midi, nous allons réfléchir en ouvrant le dossier du livre de Job. Aimer Dieu au point de souffrir sans comprendre. C'est toute la question de l'épreuve. Où est Dieu quand j'ai mal? Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a égaré mon dossier? Ce matin, nous allons donc réfléchir dans une autre direction. Aimer Dieu au point de résister à la tentation. Et je vous invite à ouvrir avec moi dans vos Bibles, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4e. Luc, chapitre 4, c'est le fameux récit de la tentation de Jésus. Pour remettre les choses dans leur contexte, Jésus vient de vivre un moment très fort qui inaugure son ministère public, le baptême. C'est une prise de position. Et une voix s'est faite entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Le Père aime le Fils. Maintenant, la question est de savoir jusqu'où le Fils est-il prêt à aller en amour pour le Père? Et ça, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et il faut passer ce test, cette épreuve. Je me souviens quand j'étais à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, et quand on passait le grand examen de doctrine, de théologie, avec le regretté professeur et pasteur Jules-Marcel Nicole, on avait le sentiment de passer à la casserole. Mais ce qui était intéressant, c'est que M. Nicole nous attendait dans la grande salle de cours de l'Institut. Et puis, il y avait un petit salon. Et dans le petit salon, il y avait son épouse. Ils étaient suisses. Et ils nous donnaient, bon, c'était pas du dopage, mais un carré de chocolat suisse avant de passer à la casserole à côté. Bon, ça nous encourageait. Et M. Nicole nous encourageait en nous disant, oh, vous savez, des examens avec Dieu, on en passe tous les jours. Alors les étudiants, et je sais qu'il y en a qui ont un contrôle lundi, vous pensez peut-être que, oh là là, c'est... Mais vous savez, des contrôles, on en passe tous les jours avec le Seigneur. Et c'est un test. Alors voilà donc, je lis ce récit de la tentation de Jésus dans Luc chapitre 4. Je le lis dans la version Bible du Semeur. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « Il est dit dans l'Écriture, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. » Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela m'a été remis entre mes mains, et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, saute d'ici, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera ordre à ses anges de veiller sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne chercheras pas à forcer la main au Seigneur, ton Dieu. » Et lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Dans certaines traductions, c'est jusqu'à un moment favorable. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 5:8, nous dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si tel a été le chemin de Dieu pour Jésus, je présume que le disciple n'étant pas plus grand que le maître, pour nous, ça va être le même régime, la même école d'apprentissage. Apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus, quand il est venu sur la terre, il était pleinement conscient qu'il était investi d'une mission divine. Il savait que son père avait tracé une feuille de route. L'Écriture nous dit que le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour racheter celle des autres. Jean, dans sa première épître, nous dit que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus avait une feuille de route, il avait une mission, et il était très conscient de la raison pour laquelle son Père l'avait envoyé sur la terre. Dieu avait une mission pour son Fils. Seulement, ici comme ailleurs, la concurrence, elle existe. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas été invité, mais qui s'invite. Et lui aussi, il a un projet pour Jésus. Et le projet de l'adversaire va consister à amener Jésus à dévier de la trajectoire de la volonté de Dieu. Et moi ce matin, bien-aimé, j'ai 4 questions à vous poser. Je vous les pose maintenant et je vais vous les poser à nouveau en conclusion. La première question que j'aimerais vous poser, c'est « Es-tu conscient de la volonté de Dieu ?» pour toi et pour ta vie, dans les grandes choses comme dans les petites choses. Es-tu conscient de la volonté de Dieu pour toi? Sachant que la Bible nous dit, en Romains 12:2, que la volonté de Dieu, elle est bonne. Elle est agréable. Elle est parfaite. Et la première question à laquelle tu dois apporter une réponse, c'est est-ce que tu crois que la volonté de Dieu pour toi, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite? Première question. Deuxième question, est-ce que tu es conscient qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été invité, mais qui s'invite, qui a un projet aussi pour toi, dans les grandes lignes comme dans les petits détails? Et son objectif, c'est de te faire passer à côté du meilleur que Dieu veut pour toi. Est-ce que tu es conscient qu'il y a un adversaire qui veut brouiller les cartes et jouer la concurrence? La troisième question que je viens te poser, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement et pratiquement pour que la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, s'accomplissent dans ta vie? Et la quatrième et dernière question, c'est concrètement, pratiquement, qu'est-ce que tu fais pour déjouer la tentative de l'adversaire de te faire passer à côté du meilleur que Dieu veut pour toi? Nous allons réfléchir ce matin en gardant ces quatre questions en toile de fond. Dans trois directions bien précises. D'abord, on va réfléchir sur l'enjeu et la finalité de la tentation. En second lieu, nous allons réfléchir sur le mécanisme de la tentation. Quelle a été la stratégie de l'adversaire? Et puis en troisième lieu, bien sûr, nous allons souligner le secret de la victoire. Comment sortir victorieusement de cette épreuve? Alors d'abord, pour clarifier la situation, une question de vocabulaire demande à être éclaircie. Dans l'original, il y a un mot, topeirasmos, en grec, qui est traduit tantôt par tentation, tantôt par épreuve. Tout dépend du contexte. C'est le même terme, et selon le contexte, on va le traduire tentation ou épreuve. Pour faire court, on peut dire que le Seigneur nous met à l'épreuve dans le but de nous faire grandir. Tandis que l'adversaire, il met des pots de banane sur notre chemin dans le but de nous faire tomber. L'intention pédagogique n'est pas la même. La Bible dit que le diable, il est le tentateur. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de la tentation. Dieu permet au tentateur d'accomplir sa sinistre besogne. Mais le projet de Dieu, c'est Romains 8, 28, c'est de faire concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Et dans sa souveraineté, le Seigneur a les moyens d'utiliser les mauvaises intentions de l'adversaire qui veut nous faire tomber pour nous faire grandir et nous en faire sortir victorieusement, selon la belle promesse de 1 Corinthiens 10-13, selon laquelle aucune tentation ou aucune mise à l'épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle. Et là, il faut souligner trois fois en rouge et même en jaune fluo, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de vos forces. Dieu soit béni. Il y a au moins trois personnes qui suivent et qui lisent la même Bible que moi. Ça m'encourage, je continue. Et face à la tentation, d'un côté il y a la souveraineté de Dieu et de l'autre côté il y a la responsabilité de l'individu. En théologie, il faut toujours maintenir l'équilibre entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'individu. Alors la souveraineté de Dieu, nous la trouvons dans la prière du Notre Père, où Jésus nous a enseigné à prier dans Matthieu 6,13 « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. » Lorsque nous prions le Notre Père, nous demandons au Père qu'il nous donne la force de vaincre la tentation. Parce que livrés à nous-mêmes, nous ne faisons pas le poids, nous n'avons pas les moyens. Mais nous demandons au Père la grâce et l'énergie nécessaires pour vaincre l'adversaire. Voilà ce qu'il en est de la souveraineté de Dieu. Maintenant, nous avons une responsabilité face à la tentation. Dans Matthieu 26, 41, Jésus dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Donc, ma responsabilité, elle est engagée. Et donc, il y a un juste milieu à trouver. L'apôtre Jacques va encore plus loin. Jacques, chapitre 1er, versets 13 à 15. Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». C'est un blasphème, c'est une hérésie. Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Le péché, c'est opposé à la nature de Dieu. Et en aucune façon, Dieu ne peut inciter qui que ce soit au mal. Et Jacques remet les pendules à l'heure, et question de pendule, il va démonter le mécanisme de la tentation, j'allais dire comme un horloger bien suisse qui va démonter le mécanisme d'une montre. Et il va dire, chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Et la convoitise, une fois qu'elle est arrivée à son terme, eh bien, elle produit la mort et le péché. Le péché qui donne la mort. Donc Jacques remet les pendules à l'heure. Face à la tentation, ma responsabilité, elle est engagée. Il y a des gens qui vont vous dire, « Ah non, mais quand j'ai vu cette fille, non mais attends, je ne pouvais pas faire autrement, j'étais obligé de craquer. » Non, c'est pas du tout ce que Jacques dit. Chacun doit assumer sa responsabilité. La première question que nous devons nous poser est de savoir pour quelle raison était-il nécessaire que Jésus passe par la tentation ? Parce qu'on pourrait dire Jésus, fils de Dieu, Dieu fait homme, il est au-dessus de la moyenne, de la médiocrité internationale, il n'a pas besoin de passer ce genre d'épreuve. Si Jésus n'avait pas été tenté, il aurait manqué quelque chose à son humanité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous avons en Jésus le souverain sacrificateur parfait par excellence. Le médiateur par excellence qui a toutes les qualités pour nous représenter auprès du Père et qui peut représenter le Père auprès des hommes. Et il fallait que Jésus, dans son humanité, soit tenté comme vous et comme moi. Sinon, on aurait pu dire « il n'est pas l'un des nôtres ». Alors bien sûr que Jésus, dans son humanité, était exonéré de cette nature pécheresse qui nous incite à céder à la tentation de l'adversaire. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui pensent que « oh là là, là il y a eu la tentation, là le Seigneur devait être tellement occupé par un chrétien dans l'hémisphère sud, peut-être en Australie par là, que... il n'a pas vu venir et l'adversaire, il en a profité. Et le Seigneur avait le dos tourné et là, l'adversaire, il a chargé la barque hein, pour me tenter, mais alors une tentation XXXXXL, vous voyez ce que je veux dire. Et parfois, on s'imagine de notre petite tête, ah ouais, ben là, le Seigneur n'a pas assuré, et il était pris de court et c'est l'adversaire qui a marqué un point. Le texte nous dit « Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté. » Ça veut dire que la tentation, ce n'était pas un accident de parcours. De la même façon, il y a des gens qui vont vous dire « Ah ben Jésus, c'est dommage, hein, il était bien parti. Ah finalement, malheureusement, ça a mal tourné pour lui, c'est dommage. » Un peu comme les disciples que Jésus a rencontrés sur le chemin d'Emmaüs. « Ah ben oui, on avait placé tous nos espoirs en lui. » Ah ouais, mais c'est dommage parce que les hommes l'ont arrêté, on a fait un procès injuste et puis il est mort sur une croix. Ah, il a mal fini, hein. C'est vraiment dommage pour lui. Hein. C'est toujours les bons qui partent d'abord et puis c'est les crapules qui restent, hein, ce qu'on entend dire parfois. Pas comme ça, mais... Non, la mort de Jésus et son arrestation, son procès injuste et sa crucifixion, c'était pas un accident de parcours. C'était inscrit dans le projet de Dieu. Et de la même façon que la tentation, ça faisait partie du programme de Dieu pour Jésus. puisqu'il était rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit pour être mis à l'épreuve. Jésus aurait pu tomber dans le péché. Dans le péché. J'espère que vous n'allez pas me mettre sur le bûcher après avoir prononcé une telle parole. Il fallait que Jésus apporte la démonstration par A plus B qu'il était possible à un descendant de Adam et de Ève, par la grâce de Dieu, de dire non à l'adversaire. Si Jésus avait cédé à la tentation, eh bien tout se serait terminé là. L'évangile de Luc se serait terminé au début du chapitre 4. Il n'y aurait pas de livre des Actes, il n'y aurait pas d'épître, il n'y aurait pas d'Apocalypse, et toutes les prophéties des prophètes d'autrefois ne se seraient pas accomplies. Lorsque nous sommes tentés, nous pensons parfois que « Oh là là, il y a un géant devant moi, c'est un Goliath ». Et moi, je suis un tout petit Minus, un tout petit David. Et vraiment, ça va chauffer, je suis mal parti et c'est pas gagné. Souvent, on pense que nous sommes à la merci de l'adversaire. C'est pas du tout la vision que l'Écriture nous donne. Ce n'est pas le chrétien qui est à la merci du tentateur, mais c'est plutôt le tentateur qui est entre les mains du Dieu souverain qui contrôle toute la situation de A jusqu'à Z. Et ça, c'est important d'avoir la vision de la souveraineté de Dieu quand on parle de la tentation. Je vais le redire cet après-midi quand on va parler de Job. J'ose dire que l'adversaire, il n'est qu'un figurant dans une pièce que Dieu maîtrise et contrôle. C'est Dieu le grand metteur en scène. Il est le producteur, il est le réalisateur. C'est lui qui contrôle tout de A jusqu'à Z. Et il utilise différents figurants. Je n'ai pas dit que le diable est une marionnette entre les mains de Dieu, parce que cela reviendrait à rendre Dieu responsable et coupable du mal que fait l'adversaire. Une vision biblique de la souveraineté de Dieu affirme plutôt que, dans sa souveraineté, Dieu a les moyens et le pouvoir d'utiliser le mal que fait l'adversaire sous sa propre responsabilité pour en tirer gloire et en faire ressortir un bénéfice à l'avantage de l'enfant de Dieu et pour la gloire de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui puisse réaliser ce tour de force. Et c'est la raison pour laquelle je dis, bien-aimés, nous devons bien comprendre, lorsque nous sommes en présence du tentateur, nous sommes impuissants, livrés à nos propres ressources, mais nous ne sommes pas une petite fourmi devant un énorme pachyderme, un éléphant, ou un petit David devant Goliath. L'adversaire, ce n'est pas nous qui sommes à la merci de l'adversaire, c'est l'adversaire qui est entre les mains de Dieu. Et l'adversaire ne peut pas faire plus que ce que Dieu lui permet de faire. Le seul pouvoir que l'adversaire a sur les enfants de Dieu, alors un, c'est le pouvoir que les enfants de Dieu peuvent lui donner quand ils désobéissent à la volonté de Dieu, et parfois il y a des chrétiens qui tendent le bâton pour se faire battre. Deux, le seul pouvoir dont l'adversaire dispose, c'est celui dont il plaît à Dieu de permettre à l'adversaire d'user et de disposer. Point à la ligne. Et là, ça remet les pendules à l'heure. Donc, la souveraineté de Dieu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, nous pensons que, et dans certains milieux, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est comme quand vous avez été vacciné. Et pour certains, la plénitude du Saint-Esprit, ça vous confère une sorte de blindage spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Une porte blindée, vous savez que c'est une porte vraiment pour pouvoir casser la porte ou l'ouvrir quand elle est fermée, si elle est blindée. Je veux dire, il faut avoir fait de longues études, ou du moins être une crapule de chez crapule pour pouvoir... Bon, il y a des gens qui arrivent. Mais on pense que dans certains milieux, quand on est rempli du Saint-Esprit, alors là, on surfe au sommet de la vague, on est au-dessus de la médiocrité internationale. Il y en a même qui vont vous dire, attendez, mais nous, on fait encore mieux que Jésus, on est même plus tenté, hein, quand on est rempli du Saint-Esprit. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est béni, c'est... Moi, je vois plusieurs vérités à rappeler concernant la plénitude du Saint-Esprit. D'abord, nous, on pense qu'on est tenté quand on est au creux de la vague. Alors, c'est sûr que quand on n'a pas lu sa Bible depuis plusieurs jours, quand on n'a pas entretenu sa relation personnelle avec Dieu dans la prière, quand on a pris du large, c'est sûr qu'on est comme dans le troupeau. Vous savez, j'aime beaucoup les reportages animaliers et j'essaye d'étudier la stratégie des prédateurs. Et le lion par excellence, au sommet de la chaîne alimentaire, je suis toujours fasciné par son intelligence à détecter les membres du troupeau qui se mettent à l'écart ou qui traînent une patte, et ça va être une proie facile, hein. Alors nous pensons souvent que nous sommes tentables ou accessibles à la tentation quand on est au creux de la vague. C'est vrai, quand nos batteries spirituelles sont à plat, nous sommes vulnérables. Mais, j'allais dire, ne vous détendez pas sur votre chaise. Il faut rester vigilant, parce que même quand on est rempli du Saint-Esprit, j'allais dire, on peut appuyer sur le mauvais bouton, prendre la mauvaise décision ou faire une bêtise. Si on ne se laisse plus conduire par le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas un blindage. Ça ne nous confère pas une sorte d'immunité spirituelle. Vous savez, on parle de l'immunité diplomatique. Il y a des gens, quand ils ont un certain statut dans la société et dans la hiérarchie sociale, eh bien, on est tous égaux, mais il y en a qui sont quand même un peu plus égaux que les autres. Et il y en a qui sont quand même au-dessus des lois et ils ont un certain privilège. Ben, quand ils prennent l'avion, il y a souvent un comptoir dédié aux diplomates. Nous, on fait la queue pendant 20 minutes, hein, puis eux, ils arrivent tranquilles. On se dit des fois, waouh, c'est bien d'être diplomate, hein. Bon, s'il y en a parmi dans la salle, soyez bénis, Dieu vous aime et nous aussi, hein. C'est pas la seule chose qu'il faut retenir de mon message, je précise. Non, il faut se protéger. Mais l'immunité spirituelle, ça n'existe pas. Et le diable, il regarde pas. Ah ouais, lui, il est rempli du Saint-Esprit, c'est un gros gibier. Non, je le laisse de côté. Non, il peut. Moi, je suis étonné de voir des lions qui s'attaquent à des éléphants. Et je peux vous dire, même des buffles. Le buffle, je vous en conseille pas d'en avoir un dans votre jardin. Sauf si vous avez un gros problème avec votre voisin, mais c'est pas très chrétien, hein. C'est pas très chrétien. J'observe que la plénitude du Saint-Esprit ne s'expérimente pas en l'absence de la tentation, mais c'est en présence de la tentation. Et puis, tant que nous sommes sur cette terre, la tentation, elle fera toujours partie du paysage chrétien. Et attention à la publicité mensongère. Certains veulent vous faire croire, ah ouais, mais nous, on est des chrétiens, on est déjà dans la cinquième dimension. On n'a toujours pas compris quelles sont les quatre premières. Et nous, on est au-dessus de la médiocrité internationale. Et nous, chez nous, ouais, on surfe au sommet de la vague. Et comment vous écrivez le mot tentation? Ça fait pas partie de notre vocabulaire, parce que nous, on a vaincu, nous, on est au sommet de l'échelle. Alors Jésus, il était rempli du Saint-Esprit et conduit par l'Esprit dans un désert. Alors je ne peux pas donner de témoignage personnel, j'ai jamais fait de trek en solitaire dans un désert. C'est pas la chose qui m'a tenté le plus jusqu'à maintenant. Ça peut changer, hein, quand on prend de l'âge, parfois on évolue, pas toujours dans le bon sens. Mais enfin, voilà. Je crois savoir que quand on est dans un désert, on est seul. Et dans le désert, c'est quand personne ne me regarde, que je suis vraiment moi? Et une bonne question à se poser, c'est moi, je dis que je suis chrétien. Le dimanche matin, derrière ma belle cravate du dimanche et ma belle robe du dimanche, je chante les louanges du Seigneur et j'ai des grandes allures de chrétien évangéliquement correct. La question est de savoir, qu'est-ce qui reste de mon christianisme quand personne ne me regarde? Ou quand je suis seul avec mon conjoint? Parce que là, nos proches, on n'a plus rien à prouver, de toute façon. Il y a des domaines où on est grillé, il y a peut-être encore quelque chose à faire, mais les illusions, vous savez, on dit parfois l'amour rend aveugle, mais c'est le mariage qui rend la vue. Ah ouais. Et parfois, après un certain temps, on a perdu toutes nos illusions. Hein. Quelqu'un disait, nul n'est un grand homme pour son valet de chambre. Et je crois savoir que les grands rois de France, les gens qui vivaient dans leur environnement proche, eh bien, ils auraient des livres à écrire sur les travers et tous les choses qui ne sont pas catholiques ni orthodoxes et encore moins évangéliques chez ces grands personnages. Mais en tout cas, dans le désert, je suis seul, seul avec moi, seul avec Dieu. Et puis dans le désert, il y a quelqu'un qui n'était pas invité, mais qui s'invite. Et la question, c'est comment est-ce que je vais réagir? Verset 3, alors le diable lui dit, il a pris l'initiative d'adresser la parole à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Alors dans nos versions, c'est « Si tu es le Fils de Dieu ». On a souvent coutume de dire, « Ah ben voyez, le diable, il fait ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, il remet en doute ou en cause la parole de Dieu ou la divinité de Jésus-Christ. » Dans l'original, la conjonction « éan » en grec, elle peut avoir un sens conditionnel, mais elle peut aussi avoir un sens causal. Pardonnez-moi ce rappel de grammaire française à une heure qui n'est plus très chrétienne en ce beau dimanche matin. Mais on pourrait comprendre que le diable dit « puisque tu es le Fils de Dieu ». Hein, toi le Fils de Dieu, tu te laisses mourir de faim? Mais c'est quoi ça? J'y crois pas, j'hallucine, comme dirait... Comme on pourrait lire sur Facebook, hein. J'y crois pas, j'hallucine, mais c'est quoi ça? Mais tu as des soucis à te faire sur l'amour de ton père? Toi, le fils du roi, tu crèves la dalle? Tu te laisses mourir de faim comme ça? Mais attends, c'est quoi ça? Bon, il faut lire entre les lignes. Et vous comprenez bien que l'adversaire, lui, il casse les prix, hein. Vous savez, il faut se méfier de ceux qui jouent la concurrence au point de casser les prix, parce que quand on casse les prix, on écrase la qualité. Hein. Et au final, moi je connais quelqu'un qui me dit « Moi je suis trop pauvre pour m'acheter du bas de gamme. » Bah ouais, parce qu'il doit en racheter 3 ou 4. Hein. Bon, enfin. L'adversaire, il incite Jésus à utiliser ses prérogatives de fils de Dieu pour mettre fin à la séance d'examen que Dieu avait prévue pour son fils. L'adversaire lui dit, mais attends, l'autodétermination, tu connais pas ce mot-là? Aide-toi, le ciel t'aidera. Prends ton destin en tes propres mains. Largue les amarres. Mets fin à la séance d'examen. Et Jésus, plus tard, qui va multiplier les pains, nourrir des foules, aurait très bien pu ordonner, avec la parole créatrice de Dieu, ordonner que des pierres deviennent du pain. Mais si Jésus avait fait cela, c'était lui qui contrôlait la situation. Et c'était lui qui mettait un terme à ce que Dieu avait prévu pour lui. Et c'est là où nous comprenons que, parfois, en tant que chrétiens, nous désobéissons à Dieu et nous reprenons la situation en main. On ne fait plus confiance à Dieu parce qu'il y a une petite voix qui nous dit « Mais attends, c'est pas normal, tu as droit à ceci, tu as droit à cela. Regarde les autres, mais de toute façon tout le monde le fait. Pourquoi toi, pas toi? Un de plus, un de moins, ni vu ni connu, pas vu, pas pris. » Plus tard, il y a des gens qui vont dire, quand Jésus était sur la croix, Sauf, il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Eh bien, puisque tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Sauve-toi toi-même. Il a dit qu'il pouvait sauver les autres. C'est subtil. Dis à cette pierre de devenir du pain. La leçon à retenir, c'est que la première stratégie de l'adversaire consiste à nous amener à prendre une mauvaise décision pour nous coincer. Nous faire prendre une mauvaise décision pour nous coincer. Alors Jésus répond en utilisant la parole de Dieu, hein, verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. Et le passage parallèle de Matthieu 4 ajoute, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans notre société de consommation, le message qu'on nous envoie, c'est que l'être humain se réduit à être une bête à consommer, un consommateur. Nous sommes, à entendre certains, uniquement réduits à être un tube digestif. Pour beaucoup de gens, les grandes fêtes de l'année chrétienne, Noël, Pâques, la Pentecôte, c'est « Alors, qu'est-ce que vous allez manger pour Noël ?» C'est quoi le menu? Et déjà 2 mois avant, il y a des gens qui salivent déjà et en pensant au vin fin qu'ils vont déguster. Si les gens de ce monde savaient prendre soin de leur âme comme ils savent prendre soin de leur corps. Vous savez, parfois je vois en général ce sont des messieurs. C'est surtout peut-être le seul ménage qu'ils font dans leur vie, ils astiquent leur voiture. Et parfois, je vois des messieurs avec grande religiosité astiquer leur voiture. Et la pire des choses qui pourraient leur arriver, c'est si vous égratignez leur voiture. Des fois, moi-même, je me dis, eh bien, dis donc, ce monsieur, s'il prend soin de sa femme et de tous les siens, de la même manière qu'il prend soin de sa voiture, eh ben dis donc, ça va être formidable. Mais si les gens prenaient soin de leur être intérieur, de la même manière qu'ils prennent soin de leur être extérieur, bon, je ne vais pas faire un message pour prêcher contre les produits cosmétiques, ni contre le temps que nous passons dans la salle de bain, sachant que chez certains, c'est plus long que chez d'autres, mais... L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'adversaire veut nous faire croire que notre inconfort physique ou nos frustrations d'ordre matériel, c'est le problème prioritaire à résoudre. On vit dans un monde qui médicalise beaucoup. Maintenant, attendez, on n'a plus le droit d'avoir un problème parce qu'on veut atteindre le plus près possible le risque zéro. Un jeune de 12 ans et demi, sa petite amie l'a laissé tomber, mais c'est Apocalypse Now. Il faut prendre des antidépresseurs et du Prozac et tout ce que vous pouvez imaginer, parce que, c'est... J'exagère un petit peu. Alors l'adversaire, au verset 5, n'a pas discuté avec Jésus. Vous remarquerez qu'il y a des domaines où il ne s'essaye pas. Le diable, par contre, il l'a conduit plus haut, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Ça devait être en esprit, une vision. Et puis, je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. Bon, il y a juste un petit détail, hein, c'est une formalité, mais un détail, c'est le détail numéro 444 sur la liste. Tu te prosternes devant moi, tu m'adores, et puis l'affaire est dans le sac, hein, c'est bon. Tout ce que le diable a de mieux à offrir, c'est quoi? Eh bien, c'est la gloire des royaumes de ce monde. L'adversaire, lui, là où il excelle, c'est dans ce qui est matériel, terrestre, temporel, immédiat, somme toute secondaire. Alors, remettons les choses en perspective. Le Père a envoyé son fils Jésus sur la terre. On le dit à Noël, on a raison de le réaffirmer, Jésus est né pour mourir. Le Père a envoyé le Fils pour qu'il vienne mourir sur la croix et au prix de ses souffrances, conquérir un royaume qui n'est pas de ce monde. Voilà la volonté de Dieu pour son Fils. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est le haut de gamme. Et à côté, vous avez l'adversaire, c'est le bas de gamme. Le meilleur qu'il puisse proposer, c'est la gloire d'un royaume temporel, matériel, passager, ici-bas seulement. Et vous remarquerez la concurrence, et là, il casse les prix, parce qu'il n'y a même pas besoin de souffrir pour obtenir la gloire de ces royaumes. Juste un petit détail, une formalité, tu te prosternes et tu m'adores. D'un côté, vous avez le haut de gamme, la volonté de Dieu. Et Jésus a bien dit, celui qui veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre, il doit mourir à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. Ça, c'est la volonté de Dieu. L'autre côté, vous avez l'adversaire qui joue la concurrence. Pas ni problème. Cool, Raoul. Relax, Max. À l'aise, Blaise. Tranquille, Émile. Pas de panique, Monique. Fais comme tout le monde. Laisse-toi aller. Ça va le faire. Les faux prophètes, eux, ils parlent, ils disent les choses agréables à dire et à entendre, que les gens ont envie d'entendre. Sachant que les gens, ils préfèrent un mensonge qui les arrange à une vérité qui les dérange. Les vrais prophètes, eux, ils disent les vérités qui sont pas faciles à dire, mais des vérités que les gens ont besoin d'entendre. Et d'un côté, eh bien, il y a foule. Et sur la courbe de l'audimat, eh bien, le mercure grimpe. De l'autre côté, c'est la porte étroite de la repentance, c'est le chemin resserré de la sanctification. Seulement, au final, d'un côté, ça mène à la vie éternelle, et de l'autre côté, on va dans le mur, à la perdition. Même si plus on est de fous, plus on rit. Je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que je suis convaincu que la volonté de Dieu, pour moi, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. La proposition de l'adversaire, elle est toujours la même. Caresser dans le sens du poil. Satisfaire nos envies immédiates. Mais attends, ce que ton père te propose bien plus tard, moi je te le donne tout de suite. Cash! L'adversaire, il veut satisfaire nos envies tout de suite et offrir la satisfaction de nos désirs à l'instant T. Il prétend toujours nous faire réaliser une bonne affaire. Non mais, faut se méfier des commerciaux qui ont fait des études de marketing et qui savent vous rouler dans la farine. Ils vous font croire que vous faites une bonne affaire et au final, ils vous roulent dans la farine. L'adversaire, il casse les prix, mais en réalité, il est le prince de la contrefaçon, parce que c'est de l'arnaque. Il est le manipulateur, il est le grand séducteur, il est le roi des menteurs. Il vous fait miroiter un paradis qui, au final, ressemble à l'enfer. Et comme toujours, la première dose, elle est gratuite. Jésus est venu conquérir un royaume spirituel et céleste pour lequel il devra souffrir en sacrifice sur la croix. Voilà le plan de Dieu. L'adversaire, lui, propose un royaume terrestre et temporel que Jésus n'aura pas besoin de conquérir et pour lequel il ne sera pas nécessaire de souffrir. Qui peut proposer mieux que l'adversaire? Et j'ai le choix, comme Jésus a eu le choix, entre d'un côté le haut de gamme et de l'autre côté le bas de gamme. Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Point à la ligne. Il fallait une réponse énergique, déterminée, devant une telle proposition alléchante. Alors la deuxième stratégie de l'adversaire, c'est « Si tu te prosternes et m'adores. » L'adversaire, il cherche à nous impliquer dans une mauvaise relation pour nous coincer. Alors là encore, le diable n'a rien à répondre. Et au verset 9 à 11, il va conduire Jésus à Jérusalem, le placer sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, ou puisque tu es le fils de Dieu, voilà, tu te jettes dans le vide. » Parce que, et là l'adversaire, peut-être c'est le seul point où on peut l'imiter, il connaissait le psaume 91. Je ne sais pas combien de chrétiens connaissent le psaume 91, même si, comme on dit en français, un texte sorti de son contexte devient un... Il y a trois personnes qui m'écoutent, c'est mieux que tout à l'heure, hein? Un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Alors, vous savez, l'adversaire, il se donne pour être un bon apôtre. Il dit, tu vois, moi, fais-moi confiance, moi, je veux t'aider. Voilà. Il est écrit dans le psaume 91, versets 11 et 12, que si tu tombes d'une haut d'une falaise, l'Éternel a les moyens de te remettre d'aplomb et de faire en sorte que tu t'en ressortes indemne. Alors, l'adversaire propose un deal. Ben voilà, toi, moi, je veux t'aider, hein, tu es au début de ton ministère. Ben écoute, tu vas faire un miracle, hein, ça va être un scoop. Au JT de 20h, en première, tu vas faire la une de la soirée d'info. Voilà, Jésus, il s'est jeté du haut de la falaise et miraculeusement, un peu comme Spider-Man, hein, il en est ressorti indemne. Et là, tout le monde va dire, waouh, ça c'est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous savez, encore aujourd'hui, bien des gens sont friands de sensationnel. Je reçois parfois des invitations que je n'ai pas sollicitées pour participer à des réunions animées par des gens, mais alors là, je vous dis pas, rien que pour leur carte de visite, il faut deux feuilles A4 recto verso. Hein. Ce sont des grands apôtres qui ont des dons absolument surnaturels. Je ne sais pas, si vous n'avez pas de sous, un clin d'œil à les entendre, vous allez être couvert d'or. Et d'ailleurs, il y en a qui ont joué dans ce registre. J'ai entendu le témoignage d'un libraire qui avait un client qui avait plein de factures non payées. Et ce client, il se targuait d'avoir reçu des dents en or. Ce n'était pas le dentiste qui lui avait... Hein. Et à la fin, le libraire lui dit, écoute, si tu as tant d'or en or que ça, tu pourrais pas en vendre une ou deux pour payer tes factures? Parce qu'il était bien en retard dans ses factures, le règlement de ses factures. En tout cas, les gens sont friands de sensationnel. Ils veulent voir du miraculeux. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que, de toute façon, si les gens ne voient pas de miracle, ils vont pas se convertir. Hein. Et au temps de Jésus, il y a des gens qui étaient intéressés de suivre Jésus uniquement pour le miraculeux. C'est tout juste s'il n'y en a pas dans la bande, dans l'auditoire, qui disait « Est-ce que quelqu'un a un tuyau là ? C'est prévu pour quand la prochaine résurrection ?» Parce qu'on veut être aux premières lignes. Alors l'adversaire joue dans ce registre le spectaculaire, le sensationnel, le tape à l'œil. Voilà, tu fais un miracle, les gens vont dire « Waouh, ça c'est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande, et là ton ministère il va monter en flèche, là tu vas vraiment déchirer. Et Jésus lui répondit, verset 12, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Dans la version Bible du Semeur, « Tu ne provoqueras pas, non, tu ne chercheras pas à forcer la main au Seigneur ton Dieu. » Forcer la main. La troisième stratégie de l'adversaire, « Jette-toi d'ici en bas », elle vise à provoquer une mauvaise réaction et à pousser Dieu à faire des choses qu'il n'a pas prévu de faire. Et quand Jésus a dit cela, eh bien l'adversaire n'avait rien à répondre. Et au verset 13, il est dit, après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Ou dans certaines versions, c'est jusqu'à un moment favorable. Alors sur ce coup-là, l'adversaire, il a perdu une bataille. Mais il ne s'avoue pas vaincu et il n'a pas perdu la guerre parce qu'il est revenu à la charge. Et on le voit dans la suite de l'évangile. On peut discerner le D du diable ou le S de Satan. les scribes et les pharisiens, dans leurs controverses théologiques, ont cherché à le coincer de bien des façons, en lui posant des questions pièges, en lui demandant des signes. Ses frères lui ont demandé d'aller à la fête, dans Jean 7, versets 2 à 5, pour qu'il se montre, mais pour des motivations purement humaines et charnelles. Et Jésus, quand il a annoncé la nécessité de monter à Jérusalem pour y être mis à mort par les autorités religieuses, Pierre, le bon apôtre, Seigneur, on se demande s'il n'avait pas un petit côté Frenchy de chez nous, bien de chez nous, parce que c'est comme si Pierre a dit « Non, Seigneur, à Dieu ne plaise, tu ne vas pas monter à Jérusalem pour te faire… » Écoute-moi, j'ai un tuyau. Il faut se méfier des systèmes D et des brouilles, parce que parfois il y a des raccourcis qui rallongent. Et Jésus a dû lui dire « Mais arrière de moi, Satan !» Pierre n'était pas possédé du démon, mais il faisait le jeu de l'adversaire, en dépit de ses bonnes intentions. Et Jésus a bien discerné que l'adversaire revenait à la charge pour l'empêcher d'aller à la croix. Et puis lors de son arrestation, quand un des disciples, Pierre, encore lui, a étendu la main et a tiré son épée, lui il était un peu, il avait peut-être fait du bodybuilding, vous savez, il était assez expéditif l'apôtre Pierre, et vraiment le cœur sous la main, il a pris son épée, il n'a pas fait de quartier, et bloum, il a coupé l'oreille de quelqu'un qui était en face pour arrêter Jésus. Et Jésus de lui dire, remets ton épée en place, ceux qui prennent l'épée disparaîtront par l'épée. Et Jésus de lui dire, mais ne penses-tu pas que j'aurais pu invoquer une légion d'anges qui aurait fait un travail encore plus clean que ce que tu as fait Et puis, quand Jésus était sur la croix, que les passants se sont moqués de lui et qu'ils leur ont dit, mais puisque tu es le... Il a dit, je suis le Fils de Dieu, il a prétendu sauver les autres, eh bien qu'il descende de la croix et qu'il se sauve lui-même et nous croirons en lui. Et Jésus aurait pu le faire. Alors, trois clés rapidement avant de conclure pour vaincre nos tentations. Premièrement, j'observe que Jésus était déterminé à accomplir la volonté de Dieu. Il connaissait sa feuille de route et il savait que quelqu'un qui n'était pas invité allait jouer la concurrence et chercher à le faire dévier de la trajectoire de la volonté de Dieu. Jésus était déterminé à lutter contre le péché. Et la question qui nous est posée, c'est quel prix est-ce que moi, je suis prêt à payer pour dire non à la volonté de l'adversaire? C'est pourtant, c'est tentant, c'est alléchant, c'est séduisant. Ça va dans le sens de la facilité et parfois du bon sens humain. Deuxième réalité, je dois apprendre à appliquer la vérité de la parole de Dieu. Vous avez remarqué à quel point Jésus a cité l'Écriture. Jésus ne s'est pas perdu dans des raisonnements. Il a simplement cité l'autorité de la parole de Dieu. C'est uniquement l'autorité, la vérité de la parole de Dieu qui peut dénoncer le mensonge de l'adversaire. Et puis, Dieu soit béni, Jésus a vaincu. Dans notre situation, il nous arrive de chuter, de céder à la tentation, de tomber. La bonne nouvelle, c'est 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le mot confesser, en grec, c'est homologueo, ça donnait en français homologué. Et homologuer, ça veut dire la même chose que. Lorsque je confesse mon péché, je dis la même chose que Dieu, à savoir, j'accepte d'appeler péché ce que la parole de Dieu appelle péché. J'aligne mon point de vue sur le point de vue de Dieu. C'est ça, la confession. Et je crache le morceau. Je dis les choses telles qu'elles sont et je ne me voile pas la face et je plaide coupable. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pour conclure, quelqu'un a dit, être tenté, c'est humain. Céder à la tentation, c'est charnel, mais rester dans le péché, c'est diabolique. Et Dieu soit béni, il y a une porte de sortie honorable, c'est la confession. lorsque nous avons chuté, lorsque nous avons écouté la voix de l'adversaire, nous lui avons donné raison et nous avons donné tort au Seigneur. Lorsque nous avons préféré le bas de gamme de l'adversaire qui nous a trompés, on comprend pourquoi l'apôtre Jean, et on en a parlé hier soir, a dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi, tandis que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » La stratégie de l'adversaire, avons-nous dit, elle consiste en trois choses. 1. L'adversaire cherche à nous faire prendre une mauvaise décision. L'adversaire cherche à nous impliquer dans une mauvaise relation. Si tu te prosternes et m'adores. Et en troisième lieu, l'adversaire cherche à provoquer chez nous une mauvaise réaction. La stratégie, l'intention du tentateur, c'est de nous faire passer à côté de la volonté de Dieu. Du meilleur que Dieu veut pour moi. Et je termine avec mes quatre questions. 1. Est-ce que je suis conscient de la volonté de Dieu pour ma vie? Dans les grandes choses comme dans les petits détails. Est-ce que je suis convaincu que la volonté de Dieu pour moi, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite? 2e question. Est-ce que je suis conscient qu'il y a l'adversaire qui n'est pas invité, mais qui s'invite, et qui va me proposer ce qui me semble être une solution formidable à l'instant T, mais au final, c'est un piège. Et en dépit de ses bonnes intentions, il ne cherche pas mon bonheur, mais il cherche à me conduire dans le mur. Est-ce que je suis conscient du D du diable, du S de Satan, qui cherche à brouiller les cartes, et à me faire passer à côté du meilleur que Dieu veut pour moi. 3e question, concrètement, pratiquement, qu'est-ce que je fais pour que la volonté de Dieu se réalise dans ma vie? Et enfin, la 4e question, concrètement, pratiquement, qu'est-ce que je fais pour déjouer la tentation et l'intention de l'adversaire? Donc cet après-midi, nous réfléchirons sur le 3e volet, aimer Dieu au point d'accepter de souffrir sans comprendre, c'est toute la question de la théologie de l'épreuve. Et nous ouvrirons le dossier du livre de Job. Je remets à votre pasteur le soin de clôturer comme il se doit.